La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, salut.
Salut. Oh, Carey Price est en repos.
Oui, c'est ça, c'est Kayden Primo qui gaule. tu veux me parler de finances comportementales?
Ben oui, toi. Écoute, première des choses, faut comprendre, pendant la pandémie, il y a un constat. Ce qui est un peu bizarre, les gens ont plus d'argent à investir, qui est expliqué par l'aide gouvernementale, l'incapacité de dépenser parce que tout est fermé. Et donc, on se retrouve avec un surplus de liquidité. Et je dis, c'est un bon moment, parce qu'il va y avoir des annonces que je peux pas te parler tout de suite, là, parce que on n'est pas encore dans l'embargo, mais disons qu'il y a des démonstrations de ça, que les gens ont plus d'argent pour investir.
OK.
Et là, je vais parler de finances comportementales, parce que une fois que les gens ont de l'argent, ben, il y en a qui commencent à investir, il y en a qui continuent, et ils adoptent, disons, ce qu'on appelle un comportement irrationnel. Quand t'es en bourse normalement ou en investissement, t'as un comportement rationnel. C'est-à-dire que tu vas viser à minimiser ton risque, et prendre des décisions rationnelles. Mais l'être humain est en bibitte. Il y a plein de choses qui arrivent. Comme par exemple, il y a l'effet janvier. Connais-tu l'effet janvier?
Ça a-tu un lien avec le retour du temps des fêtes?
Oui, un peu. C'est là que tu dépenses moins. Non, l'effet janvier, c'est que en revenant de la fin d'année, les gens sont portés à dépenser plus dans les actions en petite capitalisation. Donc, celles qui ne sont pas des blue chips. Donc, on dirait qu'on veut prendre plus de risques, qu'on veut acheter des affaires qui donnent plus de rendement ou qui donnent un potentiel en janvier. Ça s'appelle l'effet janvier. Mais après ça, il y a d'autres, il y a des biais qui sont comportementaux, soit émotifs ou cognitifs. Là, je te donne un exemple, là, si tu vas reconnaître du monde. L'investisseur peut avoir un excès de confiance en soi. OK?
Oui.
Et ça, c'est ton oncle qui dit « Hey, achète ça, ça va être bon. » Et souvent, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les personnes ils ont des intuitions basées sur une information qu'ils ont reçue et ils surpondèrent cette information-là. Donc, par exemple, les lecteurs de Reddit, hein, puis qui se disent « Bon, ben il y a un gars sur Reddit qui a dit ça, donc ça devient une information crédible. » Quand Elon Musk dit à SNL, tout le monde avec le Dogecoin, ben, veut pas, ça influence ce genre d'investisseur-là. Il fait une surplus de confiance en soi. Il y a un autre biais qui est drôle, ça s'appelle la représentativité. Ça veut dire une erreur de classement dans ta tête. C'est-à-dire que tu dis, tu reçois plusieurs informations. Mettons, Jean-Simon, tu me dis, hey, moi, j'ai acheté des actions de Coca-Cola.
OK.
Puis là, ça reste dans ma tête. Puis là, t'es mon ami. Tu me parles. Tu me convaincs, tu sais. Puis là, en ayant l'information que tu m'as donnée, dans ma tête, je fais une erreur de classement. Je prends le classement de l'information que tu me donnes, puis je la mets en haut de toute logique. En haut de toute logique, analyse financière, je dis, Jean-Simon m'a dit ça, puis ça a influencé l'importance du titre. La preuve, quand il y a des gens alentour de toi qui réussissent dans un type de placement, tu vas être porté à aller voir ce placement-là.
Mais oui.
Ça arrive souvent en immobilier. Tu sais, ton ami vient de faire un coup d'argent avec l'immobilier, il t'en parle, il t'explique comment il a fait, tu es allé voir un forum d'un coach immobilier. C'est sûr que la semaine suivante, le placement immobilier a changé de représentativité dans ton cerveau. Et donc, tu risques de faire un placement pas rationnel, mais en lien avec ce qui se passe derrière toi. L'autre affaire, c'est la dissonance cognitive. Mettons que je te dis, tu regardes le rendement de Tesla depuis le début de l'année, c'est pas super, Jean-Simon, OK? Depuis le 1er janvier, là, ça bouge pas mal, mais c'est négatif, OK? Alors, toi, tu pourrais avoir une croyance. Puis Karen pourrait en avoir une, puis dire, écoute, moi, je pense que Tesla, c'est bon. Donc, tu t'es demandé ça toute ta vie pendant un an, là, ça a monté. Donc, tu as mis ça dans ta tête que c'était un excellent placement. Et là, tu regardes le rendement de Tesla sur 3-4 mois, puis tu te dis, attends une minute, là. C'est en complète contradiction avec ce que j'ai vu depuis le début, moi, là. Là, il y a une dissonance cognitive. Et donc, tu vas chercher à protéger ta perception de Tesla parce que toi, dans ta tête, c'est bon. C'est un peu comme si tu connais un ami qui a une excellente réputation, mais tu as reçu une information que, disons, dans sa vie personnelle, il agit très mal. Ben, tu as quand même une dissonance cognitive avec ce que tu sais de cette personne-là, ta perception antérieure.
Ben non, il est pas comme ça, lui.
Il est pas comme ça, il est bon, tu sais, tu comprends? Même affaire. Il y a un autre point qui s'appelle la disponibilité. Plus tu entends parler de quelque chose, plus tu vas avoir un biais favorable. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le marketing du placement. À l'époque de Nortel, il y avait eu des gens qui avaient fait la promotion. La crypto-monnaie, il y a tellement de monde qui t'en parle je vais donner un exemple, une anecdote récemment. Je suis allé me chercher un café au coin de la rue.
OK.
La barista, la dame qui me vend le café, il y a 24 ans, elle me dit, Pierre-Yves, connais-tu ça, toi, la crypto-monnaie? Elle dit, j'ai mis toute mon épargne là-dedans.
Oh, pas l'air.
Ben, je dis, oui, c'est risqué, tu sais, mais tu peux faire du bon rendement, tu sais, risque, rendement. Fait que ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais ça te dit une chose. Et tu te souviens, Sylvain nous en parle tout le temps. Quand c'est rendu que tout le monde en parle, comme ça, quand il nous parlait de son exemple de Rockefeller qu'il nous rappelle souvent, c'est-à-dire quand ton chauffeur de taxi ou au café, quelqu'un t'en parle puis qu'il te vante ça, c'est parce que tout le monde en fait la promotion. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens achètent? Est-ce une analyse rationnelle et fondamentale ou la disponibilité de l'information qui crée un biais cognitif? Il y a aussi la possession. Est-ce que tu as déjà eu quelque chose dans ta possession que tu surévaluais par rapport à sa valeur réelle?
Bah, certainement, là. On a tous des espèces de souvenirs d'enfance, des jouets qu'on traîne, des cartes. Moi, je suis le collectionneur de cartes.
Oui, t'as ça, toi? T'as-tu, comme moi, Larry Walker recrue?
Non, moi, c'est des cartes Magic. C'est plus nerd que toi, là.
Oui, mais c'est bon, les cartes Magic, parce que ça a une vraie valeur.
Oui,
vraiment,
oui, oui.
Il y a une demande.
Oui.
Donc, t'as une coupe de 1000 de cartes Magic chez vous.
Oui, absolument.
Et bon, sachez-le, trouvez l'adresse à Jean-Simon, allez le dévaliser. Non, mais, puis là, t'as un billet dans le sens que, il y a des affaires que tu possèdes, des placements ou autres, que, si tu vendais, tu voudrais avoir un gros prix, mais s'il fallait que tu les achètes, tu paierais bien moins cher. Donc, tu as le billet de possession. C'est-à-dire que tu surévalues une affaire parce que tu la possèdes, puis même si c'est une mauvaise décision de garder cet actif-là, tu le vends pas parce que tu le possèdes déjà.
Oui, absolument.
Ça, c'est un exemple.
Ta maison, c'est souvent ça.
La maison, c'est un excellent exemple parce que tu veux vendre ta maison, puis mettons quelqu'un vient m'offrir de l'argent pour ma maison. Puis là, il me dit, je t'offre tant. Puis là, je dis, ben non, ça vaut bien plus que ça. Mais puis dis, OK, toi, sur le marché, combien tu payes ta maison? Ben moins cher que ça. Ben, la maison, c'est le meilleur exemple, effectivement. L'aversion à la perte, ça, c'est drôle. Tu veux pas vendre parce que t'es ta perte, mais c'est pas une bonne idée de garder le titre. Et moi, j'ai moi-même, dans mon portefeuille, j'ai un titre comme ça,
okay,
qui est à perte, vraiment à perte, puis je le garde pareil, parce que ça vaut pas grand-chose, de toute façon, parce que j'avais 7 000, puis c'est rendu à 3 4 000. Compagnie québécoise.
OK.
Devine.
Attends.
Tu sais qu'il y a eu mauvaise presse au cours des dernières années. Non, deuxième choix.
Attends.
Lien politique. Lien politique, contrat, tu sais, dans d'autres pays
SNC
avec
SNC-Lavalin.
Exactement. Okay. Fait que moi, quand ça a planté SNC-Lavalin, au début, je me suis dit, tiens, on va faire un petit bet de 5 000 sur SNC-Lavalin. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a planté plus que je pensais. Et là, mais vu que c'est pas gros dans le portefeuille total, la valeur que c'est rendu, je garde. Mais c'est une aversion à la perte. Normalement, je devrais vendre ça, tu sais, mais je l'ai gardé. Parce que j'aime pas ça le voir à perdre. Je veux ce qu'on appelle
la tentative
de te refaire.
Comme un joueur de poker devant sa machine, il a mis 500$ dans la machine puis il dit, mais là, elle va payer. Ça, c'est l'aversion à la perte.
Elle est due.
Bon, ben, il y a l'aversion au regret aussi. T'évites d'investir pour ne pas avoir à regretter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, OK, j'achèterai pas ça parce que j'ai peur de perdre? Fait que j'aime mieux ne pas avoir à regretter que tenter quelque chose.
Ouais, mais si ça dépend du profil, c'est peut-être un profil d'investisseur plus prudent, j'imagine, qui va penser.
Oui, mais ça peut être dans d'autres domaines, comme la maison, c'est un bon exemple.
Ouais.
Regarde, sur 20 ans, là, on s'est tous dit qu'on a acheté de l'immobilier quand on était jeune.
Oui.
Bon, là, Jean-Simon, tu vas me dire, Pierre, je suis pas un vieux crouton comme toi. Moi, en l'an 2000, j'aurais pas pu acheter.
C'est ça.
C'est ça.
À 12 ans,
non plus, j'imagine.
Non, mais c'est un peu ça. C'était tranquille,
À 14, c'était tranquille. Tu te tenais plus dans les cartes Pokémon, Jean-Simon, j'imagine, à cette époque-là. ben, tu vois, ça, c'est un exemple. Moi, il y a des choses que j'ai pas achetées à cette époque-là parce que je trouvais ça trop cher. Mais tu vois, comme tout le monde, il y a une baisse du marché immobilier au niveau des taux d'intérêt, une hausse de la valeur, puis donc, ça a fait payer bien du monde. Donc, quand tu n'embarques pas à ce moment-là, c'est parce que tu as peur de perdre, donc tu as une aversion au regret. Et il y a le fameux statu quo. Puis là, je vais vous faire un parallèle avec les relations de vie amoureuse ou les relations de travail ou les relations d'amitié. Il y a des gens qui préfèrent, là, je mets pas de nom, rester dans un rendement très ordinaire dans lequel ils sont confortables plutôt que de changer de position et de risquer d'avoir mieux. Puis là,
ou d'avoir pire.
Ben, c'est ça l'affaire.
Ou d'avoir pire.
C'est ça.
Ben, c'est ça. Et plus tu es jeune, techniquement, moins tu devrais avoir peur de ne pas avoir mieux parce qu'il y a plein d'offres qui s'en viennent sur le marché de la vente et de l'action, d'achat d'action, on s'entend là.
Oh oui.
On parle de business. Mais si vous faites le parallèle avec l'amour, c'est un peu pareil. Si tu restes dans ta relation amoureuse qui devient de plus en plus ordinaire, mais pas tout le temps, mais si, par exemple, c'est ton exemple, par confort, ben, t'as le billet de l'investisseur du statu quo, c'est-à-dire tu, par peur d'être moins confortable, tu restes dans ton confort moyen. C'est spécial, ça. Hein?
Ouais, puis tu peux appeler ça le principe du mariage, en quelque sorte.
Je t'écoute. Ouais, je t'écoute.
Mais non, mais c'est ça pareil. Je veux dire, un mariage, souvent, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui, justement, restent dans ce confort-là. Puis à un moment donné, vient un âge où est-ce que, ben, ils se disent, qu'est-ce que je pourrais trouver de mieux, là, rendu à 48 ans, ça fait 23 ans que je suis avec mon conjoint, on dort plus ensemble, mais bon, on vit avec, on a des. Fait que tu sors pas de là.
Ouais, puis l'autre point que tu as, Jean-Simon, c'est que là, en plus, dans le mariage, contrairement dans un placement, mettons, tu as un placement boursier, ou un type de portefeuille qui te paye pas, si tu vends, tu vois la valeur qui est là, c'est liquidation, on est d'accord?
Oui.
Dans un couple, si tu te sépares, la valeur que tu as, elle split. Fait que là, c'est pas juste avoir pas peur de trouver mieux, c'est que tu sais que ça va te coûter plus cher dans une faible période minimalement. Parce que, veux, veux pas, l'économie d'échelle que tu génères à deux économiquement, tu vas la perdre.
Ben oui, exact.
À moins que tu fasses un swap pour une personne deux fois plus riche du jour au lendemain.
Mais ça, c'est pas garanti.
Ça, c'est pas garanti non plus, mais ouais. Tu sais, ça, c'est un exemple. Fait que ça, c'est plus un gamble. Mais le mariage au niveau du placement, Jean-Simon, je te comparerais ça à mettre tous tes placements dans le même placement.
OK.
Genre tout ça, pour SNC-Lavalin.
C'est ça. Tu mets mais SNC, mais ça peut être aussi une compagnie qui explose en bourse. Okay. Puis je vais donner un exemple. Puis là, c'est une anecdote qui va faire sourire un peu. On est à la radio, mais c'est drôle. C'est de demander l'histoire d'un avocat. C'est pas du tout inspiré d'une histoire vécue.
OK.
Évidemment. C'est l'histoire d'un gars que je connais pas. Okay. Lui, il s'est marié avec une fille. Okay. Okay. Puis là, il s'est marié en séparation de biens. Parce que lui, il s'est dit, « Hey, moi, je suis avocat. Elle, je regarde son profil. Là. Si elle devient hot, là, dans son profil de carrière, ben, elle va aller quelque part, mais bon, j'aime mieux protéger mes actifs. » Ça, c'est l'avocat. Évidemment, l'avocat, c'est protégé. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? La personne en tant que telle avec qui il s'est marié est devenue médecin. Fait que lui, il s'est dit, comme avocat, je vais signer un contrat en séparation de biens pour protéger un peu mes biens à moi si on se sépare. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a pris le contrat de mariage qui est le moins payant au niveau du patrimoine familial ou plutôt des actifs totaux du couple si tu te sépares parce qu'il avait jamais pensé qu'elle deviendrait plus riche que lui.
Ah, oh, okay.
Pas pire, hein?
Ouais.
Pas pire. Fait que tu vois, il y a des gens qui, des fois, ils sont dans un statu quo, même, ils veulent faire un move défensif, puis le move défensif se revire contre eux autres. Ça, c'est comme un peu quand tu sors avec quelqu'un qui joue à la loto.
Ouais.
Il y a toujours une petite... Tu sais, il y a peut-être quelqu'un dans ta tête qui se dit, ouais, si je me sépare, puis la semaine d'après, il ou elle gagne à loto. Tu sais...
Tu vas te prendre les doigts à ta barouette.
Fait que t'es mieux de sortir avec quelqu'un qui joue pas à l'auto. Comme ça, si tu te pars, tu pourras pas regretter que la personne gagne le million et t'en donnes pas, tu comprends?
Merci, Pierre.
C'est du mot, là.
Chronique.
Évidemment,
couple
évidemment, c'est une fin de chronique un peu, disons, humoristique, mais il y a un petit peu de vrai là-dedans.
C'est pas fou. Salut.
Pierre. Salut.
À demain. Mais c'est vrai, pareil, que, tu sais, je serais curieux de faire un sondage auprès des... parce que, tu sais, restons dans le profil un peu relationnel. Là, je comprends les investissements. C'est pareil en investissement. Je comprends ce que Pierre-Yves veut dire. Tu sais, moi, j'ai du monde proche de moi que, tu sais, sont dans les obligations, épargne-retraite, ces affaires-là. Donc, un rendement garanti, mais très, très faible. Puis, finalement, ce que Pierre-Yves appelle des obligations de... Comment il appelle ça? Pauvreté garantie. En tout cas, une affaire de même. Là. Mais tu sais, il y a des gens qui sont très, 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 très prudents dans leurs affaires. C'est pas spectaculaire, c'est pas ça. Je serais curieux si tu faisais une espèce de sondage au niveau des couples de longue date, tout ça. Qui c'est qui sont en un profil certificat d'épargne garantie, puis qui c'est qui est plus en profil placement audacieux?
OK, tu regarderais en fait, le bilan amoureux de cette personne-là versus ses placements.
Oui.
Tu préfères une corrélation entre les deux?
C'est sûr que oui.
Puis après ça, c'est moi, Madame Minou, tu sais.
Non, mais c'est bien plus, ça a bien
c'est
plus
moi
de
qui
sens.
Croit
ça a bien
à
plus
l'astrologie.
De sens. Voyons, Karen, ça a bien plus de sens. C'est quelqu'un qui a un profil risqué dans ta vie, en général, là, mettons, t'es quelqu'un qui est un gambler dans la vie.
Mm-hmm.
Il y a des chances que tu prennes plus de risques dans ta vie amoureuse.
Ça se peut, mais ça se peut aussi que tu sois en relation très stable et que tu sois marié.
C'est possible, mais ça se peut que tu
prennes 15 ans.
Plus de risques, vrai ou faux?
Ben, comprends ton point.
Ouais. Si tu économises des vieux 2 piastres froissés dans des bas, en tout cas, tu mets en dessous de ton matelas.
Oui, ça se peut que tu restes avec ta femme même si tu l'aimes plus.
T'es d'accord?
Oui.
Je suis pas en train de dire une théorie psychanalytique à 25 cents, mais je pense que c'est pas si loin de la réalité.